Dans les années 1960-1970, les millions de travailleurs qui peuplèrent ces huttes et ces villes nouvelles, comme ceux qui les habitent encore, n'eurent de toute façon pas le choix. Ils allèrent là où l'État décida de construire, c'est-à-dire là où les lois du marché le décidaient. Entre 1960 et 1970, 195 huttes furent réalisées, totalisant 2,2 millions de logements HLM. Le pic fut atteint en 1970 avec la réalisation de plus de 160 000 logements sociaux. L'effort fut sans précédent. Pour la première fois, l'État cherchait à remédier à la pénurie de logements pour les travailleurs. Les tours et les barres tant décriées aujourd'hui améliorèrent considérablement le sort de l'immense majorité qui n'avait connu que le taudis. Des millions de personnes accédaient, pour la première fois, à un logement lumineux, aéré, avec salle de bain, WC et chauffage central. Pour beaucoup, emménager un HLM, c'était l'accès à un petit paradis. En laissant simplement jouer les lois du marché, ces immeubles ne seraient jamais sortis de terre. Les capitalistes avaient pourtant là un marché potentiel. Ils avaient des millions de clients à leur porte, prêts à payer pour un logement modeste. Mais les capitalistes n'investissent pas pour répondre aux besoins sociaux. Ce qui les guide, c'est le taux de profit. Et la construction de logements accessibles aux ouvriers n'a jamais été un placement très rentable. Pour qu'elle devienne rentable, il a fallu subventionner massivement, aider les creuses des bâtiments, verser des primes aux promoteurs. Il a fallu la volonté politique de l'État. Cela correspondait aux intérêts généraux de la bourgeoisie à plus long terme, car le logement, comme les transports ou l'éducation, sont essentiels à la bonne santé des affaires. Au début des années 1970, l'État prépara son désengagement. Les banques privées furent de plus en plus intégrées au circuit du financement du logement. Désormais, les promoteurs ou les propriétaires individuels ne furent plus forcés de passer par la Caisse des dépôts et des consignations, par le Crédit foncier de France, pour accéder aux aides, aux primes ou aux crédits spéciaux. Toutes les banques proposèrent ces financements aidés. Grâce au système de l'épargne logement créé en 1965, les familles furent encouragées à s'endetter pour devenir propriétaires. La mode était au pavillon Chalandon, du nom du ministre du Logement d'alors. C'était une maison type, livrable, clé en main, à travers toute la France. Tout le monde devait y gagner. Les ménages, qui pouvaient accéder à la propriété sans payer trop cher, et les constructeurs, qui pouvaient mettre en œuvre les procédés de préfabrication, expérimenter avec les grands ensembles, et grossir ainsi leurs marges. Les Chalandonnettes eurent du succès, pour le plus grand bonheur des promoteurs et des banques. Quant aux ménages, ils essuyèrent bien souvent les plâtres. À partir des années 1973-1974, sous l'effet de ces nouveaux mécanismes, on construisit de plus en plus pour les milieux plus favorisés et de moins en moins de HLM. Alors même que la crise du logement n'était pas résorbée, ce fut la fin de la construction massive de logements sociaux. Pendant tout un temps, le logement resta rare et le HLM fut perçu comme un objet de luxe. Les classes moyennes y furent d'ailleurs surreprésentées pendant les premières années. Les professions libérales, les médecins, les ingénieurs, les cadres, les instituteurs y côtoyaient les employés et les ouvriers. Et l'attente fut longue pour de nombreuses familles, d'autant plus qu'en 1962, il fallut aussi loger les 2 millions de rapatriés d'Algérie. Les HLM sélectionnaient les habitants et bien souvent les plus pauvres étaient mis en attente. Même si en théorie les étrangers n'étaient pas exclus, ils furent les derniers à accéder à ces logements. Et il fallut attendre 1974 pour que les plus grands bidonvilles disparaissent. Les familles les plus pauvres de la classe ouvrière ne trouvaient pas toutes une solution. En 1975, 15 millions de mal logés étaient encore recensés. Des logements trop petits, surpeuplés, sans confort, restaient le lot de millions de familles ouvrières. Et combien de travailleurs, notamment immigrés, arrivés aujourd'hui à l'âge de la retraite, n'ont connu, tout au long de leurs 4 décennies sur les chaînes de production ou dans le bâtiment, que des taudis ou les foyers de travailleurs immigrés. La crise du logement était donc loin d'être résolue pour une bonne partie des familles ouvrières. Et d'autant que certaines cités HLM, construites 10 ou 15 ans plus tôt, étaient déjà dans un état de délabrement qui exigeait une politique de réhabilitation. mais la politique des années suivantes allait tourner le dos à toute amélioration. Raymond Barre, devenu Premier ministre de Giscard d'Estaing en 1976, mit fin à la construction massive de logements sociaux par l'État. Depuis 1973, l'économie était en crise et l'État devait utiliser son argent à d'autres dépenses. Il reflétait ainsi une opinion de l'ensemble de la bourgeoisie selon laquelle l'État avait fait beaucoup pour le logement social et qu'il fallait laisser jouer les lois du marché et laisser les loyers monter. Mais comment donner du grain à moudre aux bétonneurs, aux promoteurs, aux banquiers, sans qu'il y ait pour autant de pression sur les salaires? Comment concilier les intérêts des capitalistes du logement, c'est-à-dire des loyers élevés, tout en respectant les exigences de l'ensemble de la bourgeoisie en matière de bas salaire? Le gouvernement trouva sa solution dans la fameuse APL, l'aide personnalisée au logement, et dans le PAP, prêt d'accession à la propriété, l'ancêtre du prêt à taux zéro. L'APL et le PAP furent de puissantes aides à la consommation. Des locataires qui n'auraient jamais pu payer le loyer demandé par les propriétaires devinrent solvables. L'APL est une aide qui a ceci de curieux qu'elle ne passe jamais par la poche du soi-disant bénéficiaire. Elle est versée directement au propriétaire, ce qui révèle sa vraie nature. L'APL est une subvention aux propriétaires pour maintenir des loyers élevés. La réforme de 1977 fut un puissant soutien pour le marché immobilier. La construction des maisons individuelles connut un véritable boom. S'il y avait en 1954 35% de propriétaires en France, des ruraux pour l'essentiel, on en comptait 51% en 1984. Au début des années 80, 66% des constructions étaient des maisons individuelles. Quant aux loyers, ils augmentèrent tout aussi régulièrement. Au bout du compte, cela ne coûta pas moins cher à l'État. D'autant plus que le nombre d'allocataires de l'APL explosa avec la crise et le chômage de masse. Mais ces aides furent surtout distribuées différemment. Elles allèrent beaucoup plus vite et plus directement dans la poche des principaux intéressés, les propriétaires, les banques, les promoteurs. Quant aux lois du marché, elles purent jouer librement, c'est-à-dire laisser les prix s'envoler. Les socialistes qui revinrent par trois fois au pouvoir s'inscrirent dans la continuité de cette politique. Ils auraient peut-être préféré une politique interventionniste comme celle menée par De Gaulle, qui avait tout de même eu pour effet de construire du logement social. Mais avec la crise, les dépenses en faveur de la classe capitaliste, les subventions, les exonérations d'impôts et de cotisations, grévaient de plus en plus le budget de l'État. Les socialistes au pouvoir n'eurent pas le courage politique d'imposer des sacrifices à la bourgeoisie pour construire les logements nécessaires. Ni sous Mitterrand, ni sous Jospin, il n'y eut de construction massive de logements sociaux. Les socialistes dénonçaient les marchands de sommeil, l'habitat indigne, mais prendre des mesures exceptionnelles pour trouver une solution aux milliers de familles privées de logements décents, ils ne le firent pas. Ils parlèrent de réquisitionner des logements vides, mais dans les faits, il y en eut très peu. Ils n'eurent même pas le courage d'interdire les expulsions locatives. Pour prendre des mesures de ce type-là, il aurait fallu empiéter sur les intérêts des propriétaires. Et cela aurait été une bagarre contre toute l'opinion bourgeoise et petite bourgeoise. Les socialistes auraient pu s'appuyer sur les travailleurs, sur leurs forces collectives, mais ils ne l'ont pas tenté. Dans les années 1920 et 1930, des maires socialistes s'étaient battus bec et ongles aux côtés des travailleurs, contre les lotisseurs, contre les promoteurs. Mais au gouvernement, le Parti socialiste n'a jamais eu une telle attitude. Il s'est toujours conduit en serviteur fidèle des intérêts des possédants. Les socialistes ne respectaient même pas leurs propres engagements en matière de construction de logements sociaux. Le gouvernement Jospin avait prévu pour l'année 2000 les crédits pour la construction de 80 000 logements sociaux. Seule la moitié fut construite. Car les offices HLM n'échappent pas aux lois du marché. Ils ont d'abord du mal à trouver des terrains constructibles à des prix abordables. Ils ont aussi des difficultés pour trouver les entreprises de bâtiments prêtes à répondre à l'appel d'offres au prix fixé. On parle de logement social, mais celui-ci reste soumis aux lois du marché. Pour pour construire massivement. Il faudrait réquisitionner des terrains, forcer les entreprises à en rabattre sur leurs marges. Ou alors, il faudrait que l'État se charge lui-même de la construction. Mais cela, les socialistes n'en ont jamais eu la volonté politique. Et la construction de logements sociaux ne fut pas relancée. Pour sauver les apparences, il y eut en décembre 2000 la loi de solidarité et renouvellement urbain que fit voter Guessot, ministre communiste du gouvernement Jospin. Elle fixe aux municipalités de plus de 3500 habitants un objectif de 20% de logements sociaux. Mais il fallut au gouvernement de la gauche plurielle 3 ans pour y penser et 2 ans pour ne pas l'appliquer. Aujourd'hui, les dirigeants socialistes ne se privent pas de dénoncer les maires de droite des villes bourgeoises qui n'appliquent pas la loi. Mais lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas pris les mesures pour les contraindre. L'autre innovation introduite par le PS en matière de politique de logement, et qui eut celle-là un certain succès, fut la politique de démolition des HLM. Alors qu'il manquait plus d'un million de logements sociaux, le gouvernement débloqua l'argent pour détruire 5 000, 6 000, 10 000 logements HLM. La muraille de Chine à Saint-Étienne fut une des premières barres d'inanité, 35 ans après sa construction. Cette politique porte le doux nom de mixité sociale. Mais étant donné qu'on détruit des appartements, avant même d'en avoir construit d'autres pour les remplacer, c'est une mesure supplémentaire qui aggrave la pénurie. Sur le fond, il y eut continuité entre les politiques de la gauche et celles de la droite. La nouvelle politique amorcée sous Barre fut poursuivie. L'aide publique consacrée à la construction de HLM régressait. Année après année, la construction de logements sociaux fut de plus en plus en décalage avec les besoins. Et à l'autre bout, sur le marché libre, les loyers s'emballaient. Mis à part la parenthèse des années 60, où l'État a pris massivement en charge la construction de logements sociaux, il y eut toujours une pénurie pour les travailleurs. Construire des logements de qualité pour la classe ouvrière n'est pas rentable. Pour que ça le devienne, il faut de puissantes subventions publiques. Il faut que ce soit du logement subventionné. Et l'argent de l'État sert rarement à ça. C'est pourquoi la crise du logement est une crise permanente dans la société bourgeoise. Mais sur cette crise habituelle et permanente, s'est greffée ces 20 dernières années une de ces crises spéculatives dont la bourgeoisie a le secret. Depuis les années 1970 et 1980, les investissements productifs sont limités par l'absence de débouchés et des capitaux cherchent le placement le plus lucratif. Des masses énormes de capitaux se déplacent ainsi d'un pays à l'autre, d'une monnaie à l'autre, d'un secteur à l'autre et même d'une bulle spéculative à l'autre. En 2001, après l'éclatement de la bulle spéculative autour d'Internet et des valeurs technologiques, les capitaux se sont rapatriés dans la sphère de l'immobilier. Dès le moment où les promoteurs, les grandes banques, les assurances, les financiers ont perçu que le marché immobilier était à la hausse, ils se sont jetés dessus, comme des vautours, et ont ainsi eux-mêmes conduit à la hausse espérée. Les spéculateurs s'intéressèrent d'abord aux immeubles de luxe, aux bureaux, aux terrains et aux immeubles de centre-ville, qui ont toujours constitué des placements intéressants, et qui le sont d'autant plus aujourd'hui que même le marché de l'immobilier s'est mondialisé, et que les acheteurs riches viennent de tous les coins du monde. Les spéculateurs montèrent de nouvelles opérations plus juteuses les unes que les autres, comme les fameuses ventes à la découpe, où une société immobilière rachète en bloc un immeuble locatif pour ensuite revendre les appartements un à un, quitte à mettre dehors les locataires. Deux sociétés foncières ont par exemple acheté en 2003 des immeubles locatifs à la Banque de France. Le mètre carré, acheté 4 900 €, fut proposé à la vente à 7 400 €, soit 50% plus cher. Outre le fait que le gouvernement ne fit rien pour protéger les locataires contre de telles pratiques, il poussa au crime spéculatif en inventant un nouveau régime pour les investisseurs immobiliers qui leur permettait de ne pas être taxés sur leur plus-value immobilière. La situation était on ne peut plus propice à la spéculation. Même la petite bourgeoisie mise à part, C'est pour elle d'ailleurs que furent conçus les dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement locatif. Dispositifs qui se sont succédés depuis 1984. Périssol, Besson, Robien, Borloo, presque chaque ministre eut le sien, y compris Louis Besson, donc ministre socialiste sous Jospin. Par exemple, le dispositif Robien, encore en cours, donne droit à un amortissement fiscal de 50% de l'investissement, à condition de louer son logement pendant 9 ans, à un loyer légèrement inférieur à celui du marché. La collectivité paye la moitié du logement. Les médecins, les avocats, les cadres supérieurs, certains professeurs aussi, enfin, tous ceux qui avaient un petit matelas d'économie et des facilités de crédit, ont sauté sur la bonne affaire pour constituer, comme ils disent, un patrimoine à leurs enfants. Puis d'autres, appâtés par le gain, ont acheté 2, 3, 4 appartements et plus pour les louer et arrondir les fins de mois. Les banques aussi se sont mises de la partie, prêtant sur de plus longues périodes, à des taux relativement bas. À des degrés divers, toute une classe sociale s'est mise à spéculer sur le logement. Le logement est devenu pour elle un actif financier. Mais il n'a pas cessé d'être pour autant un bien vital pour des millions de personnes. Que les financiers spéculent sur les tableaux de maîtres ou sur les grands cultes, c'est un problème. Dans la mesure où ces capitaux ne servent pas à la production utile, mais cela ne touche pas aux besoins vitaux de la grande majorité. La spéculation sur l'immobilier touche directement celui qui habite le logement et celui qui en cherche un. Et cette spéculation, elle a été payée par les familles les plus pauvres. La spéculation n'a pas porté sur le logement social, en théorie, hors du marché. Mais les conséquences de cette spéculation se sont répandues de proche en proche, du logement de standing à celui intermédiaire jusqu'à la chambre de bonne. Car dès le moment où les classes moyennes ont eu du mal à se loger, elles se sont rabattues sur des logements de moindre standing, y chassant ceux qui avaient moins de ressources, et ainsi de suite, jusqu'au parc social où la pénurie s'est aggravée. Mais cette pénurie fait encore la prospérité de certains, comme ce marchand de sommeil qui logeait dans un pavillon de Bagneux 4 personnes dans une chambre de moins de 10 mètres carrés sans fenêtre pour 480 € par mois. Ou encore celui-là qui faisait payer 750 € pour une simple chambre dans la cité de la Grande Borne à Grigny. Sans parler des familles placées par les associations, par les services sociaux ou par la préfecture dans des hôtels qui facturent jusqu'à 2 500 € par mois pour occuper une chambre où il est interdit de faire la cuisine. Le marché est si lucratif que le groupe Accor a fait des propositions à l'État pour proposer des hébergements d'urgence. On en arrive aujourd'hui à la situation aberrante où les plus déshérités deviennent une source d'enrichissement pour les marboulins de toute espèce. La plupart des pays riches ont connu la même vague spéculative. Aux États-Unis, la spéculation sur l'immobilier a débouché sur un crack, conséquences dramatiques pour les familles les plus modestes. 2 millions de propriétaires ont été expulsés ou vont l'être à faute de pouvoir rembourser les emprunts dont les taux ont explosé. Dans le pays le plus riche de la planète, des centaines de milliers de familles campent, habitent des caravanes à côté de maisons vides. Car ce n'est pas un problème de pénurie. Les logements dont ils ont été chassés existent bel et bien, mais la spéculation et la flambée des prix les ont rendus inaccessibles. On ne connaît pas encore toutes les conséquences en chaîne de la crise de l'immobilier américain sur les banques et sur l'ensemble de l'économie mondiale. Mais les capitaux spéculatifs qui se sont retirés de l'immobilier aux États-Unis ont d'ores et déjà jeté leur dévolu sur les denrées alimentaires, le maïs, le blé, le riz, et ils sèment désormais la famine à l'échelle de la planète. Il ne s'agit pas là d'abus ou de manque de conscience de quelques-uns. Il s'agit d'un système économique que la recherche de profit rend criminel. En France, la spéculation sur l'immobilier semble ralentir, mais nous n'avons pas fini d'en faire les frais. Les loyers du parc privé ont doublé ces 10 dernières années. Jamais dans notre histoire, les loyers et les profits immobiliers n'ont été aussi élevés. Ces prix interdisent à de plus en plus de familles de se loger correctement dans le parc privé. Or, le parc HLM est saturé. Cette situation ne peut que s'aggraver avec la politique actuelle. Les dépenses de l'État en faveur du logement social ont représenté en 2007 1,11% du PIB, le niveau le plus bas depuis 30 ans. Le gouvernement se vante que la construction atteigne des sommets avec 430 000 mises en chantier chaque année. Mais il n'y a pas de quoi. La construction a redémarré parce que les prix se sont envolés et qu'il était possible pour les propriétaires de faire les poches des locataires et de réaliser des profits juteux. Pour ce qui dépend de l'État, c'est-à-dire la construction de logements sociaux, elle ne représente que 8% de ces constructions. Elle permet tout juste de compenser les démolitions de HLM encouragées par la politique de renouvellement urbain. La croissance du parc social est de l'ordre de 30 000 logements par an depuis 10 ans, alors qu'il y a 1 300 000 demandes de HLM. À ce rythme, il faudrait plus de 40 ans pour que la pénurie se résorbe. Mais le gouvernement ne propose pas de construire un seul logement HLM de plus. Il propose au contraire de vendre ceux qui sont construits. Et si l'objectif des 40 000 HLM vendus était atteint cette année, le parc social pourrait diminuer. En tout cas, il ne faut pas compter sur Saint-Maur-des-Fossés, Sceaux, Saint-Cloud ou Neuilly, la ville de Sarkozy, pour augmenter le parc de logements sociaux. À Neuilly, les appartements sociaux qu'on a pu trouver sont des appartements à 800, 900 euros qui logent les rejetons du monde financier et politique. Dernièrement, la municipalité a déclaré, dans un sursaut démocratique, qu'elle était prête à accueillir des vrais pauvres. Elle parlait des agents de police et des instituteurs. Désormais, les victimes de cette crise se trouvent aussi parmi les classes moyennes. Elles sont de plus en plus nombreuses à se loger dans les logements sociaux des quartiers les moins dégradés, où elles sont accueillies à bras ouverts au nom de la mixité sociale, mais surtout parce qu'elles peuvent payer. Du coup, les plus pauvres sont rejetés de plus loin et ont de plus en plus de mal à se loger. Aujourd'hui, le gouvernement a le toupet d'accuser ces mêmes classes moyennes d'abuser du logement social et de prendre la place des plus pauvres. Rendre responsables ceux qui sont victimes de la situation, c'est une vieille méthode à laquelle la droite est rompue. Mais quelle hypocrisie, quel cynisme. Quand on s'appelle Juppé, quand on est ministre comme Guémard, ou qu'on a des relations avec le monde de politiciens, on trouve facilement un HLM de 400 mètres carrés et qui plus est des plus luxueux en plein centre de Paris. Des HLM où les pauvres entrent, mais par la porte de service pour y faire le ménage. Et il faut vraiment se moquer des plus pauvres pour oser afficher le slogan d'une France de propriétaires. D'abord, comment les ménages à qui on refuse un logement HLM trouveraient-ils un crédit pour acheter sur un marché dont les prix ont explosé? Et puis ce crédit, il faut le payer sur des années, quoi qu'il arrive. Et combien de familles ont basculé dans le surendettement parce qu'elles ne parvenaient plus à joindre les deux bouts? Sans compter qu'il ne suffit pas d'acheter le logement, il faut aussi l'entretenir. Aujourd'hui, les immeubles les plus dégradés dans les villes populaires ne sont pas seulement les HLM. Il y a aussi les copropriétés appartenant à des familles modestes qui n'ont jamais eu l'argent pour entretenir l'immeuble. Combien de familles victimes d'un licenciement se sont retrouvées piégées dans une région sinistrée avec une maison sur les bras en ayant du mal à la vendre? Combien de familles ont accepté des sacrifices des années durant pour voir au bout du compte leur habitation saisie? Dans la société capitaliste, présenter aux travailleurs la propriété d'une maison ou d'un appartement comme une sécurité est un leurre qui se transforme très souvent en un véritable piège. Le coût du logement est une catastrophe sociale. C'est un drame pour au moins 3 millions de personnes. À commencer par ceux qui n'ont pas de toit sur la tête, comme ce déménageur à Paris qui passe son temps à emménager les autres pour gagner 910 euros mensuels et qui dort dans le métro, comme nous l'a montré un récent reportage télévisé. Les 110 000 SDF ne sont que la partie visible de l'iceberg. Le drame, la souffrance quotidienne de ceux qui sont livrés aux marchands de sommeil, qui sont réduits à vivre dans des chambres d'hôtel, dans des logements surpeuplés, n'est pas visible. De temps en temps, le voile se lève, comme cet hiver lorsqu'on a découvert un intérimaire mort de froid dans sa voiture. Mais combien y a-t-il de tragédies comme celle de cette famille dont les quatre enfants sont atteints de saturnisme, la maladie transmise par le plomb, qui engendre des lésions irréversibles au cerveau? Et à qui les services sociaux demandent de patienter quand le logement insalubre? Et combien de sacrifices imposés à des millions de familles tout simplement pour payer le loyer? Alors, quand des familles ne se laissent pas faire, quand elles décident de squatter des immeubles vides, quand des dizaines, des centaines de personnes décident de camper au grand jour, eh bien cela fait partie de notre combat. Comme cela fait toujours partie du combat des mouvements ouvriers de se battre pour s'opposer à des augmentations de charges ou contre les huissiers, pour empêcher une expulsion. Les initiatives comme celle rue de la Banque ou celle du canal Saint-Martin sont mille fois légitimes. Mais la situation du logement... Mais la situation du logement ne peut être améliorée qu'à l'échelle de l'ensemble de la société. C'est à l'État qu'il faut imposer une politique de grands travaux pour construire des logements corrects, mais à la portée des classes populaires. Je dis bien à l'État, pas aux municipalités. Les municipalités, aussi bien intentionnées soient-elles, et il y en a, surtout à gauche, ne disposent pas de moyens suffisants. Il faut la puissance financière et politique de l'État. Il faut donc forcer l'État à prendre les mesures qui s'imposent. Pour commencer, réquisitionner les logements vacants sur les 2 millions recensés, un certain nombre doivent être habitables. Il faut aussi réquisitionner une partie des logements sous-occupés par la bourgeoisie. Parce qu'il n'est pas supportable que des familles s'entassent dans des chambres de 10 mètres carrés, pendant que des appartements de 400 mètres carrés sont occupés par une seule famille, voire par des personnes seules. En peu de temps, l'État pourrait sortir d'un enfer quotidien de millions de personnes livrées à la rue ou à un habitat provisoire. Mais les réquisitions, même massives, ne pourraient pas couvrir tous les besoins. Pour sortir de la crise actuelle, il faut un véritable service public du logement. Car il faut que l'État construise, en masse et de toute urgence, les logements sociaux, en embauchant directement la main-d'œuvre nécessaire et qu'il les loue à prix coûtant. Qu'on ne dise pas que les terrains manquent, qu'il y a le problème du foncier. L'État a les moyens de réquisitionner les terrains, y compris dans les quartiers bourgeois. Exproprier un petit propriétaire pour construire une autoroute, lui envoyer les gendarmes, ça, l'État bourgeois sait le faire. Cela ne lui pose aucun problème. Construire 1 million de HLM par an, ce qui permettrait en 3 ans de résorber la crise actuelle, cela coûterait 100 milliards à l'État. On nous dit que les caisses sont vides, mais l'État distribue en aide publique aux entreprises une somme considérable. En ne comptant que l'aide de l'État, proprement dit, cela dépasse les 65 milliards d'euros. Mais d'après un rapport officiel publié en 2006, en ajoutant toutes les formes d'aide, y compris celles indirectes, on avoisinerait les 250 milliards d'euros. D'après le rapport d'une mission de parlementaires rendue publique il y a peu, rien que les niches fiscales sont évaluées à 73 milliards d'euros. En supprimant ces niches fiscales et en arrêtant les cadeaux aux entreprises, l'État trouverait les moyens de construire massivement. Mais cela, il faudra le lui imposer par une lutte puissante de l'ensemble du monde du travail. Le rapport de force essentiel et décisif se joue entre les travailleurs et le patronat. Si des millions de travailleurs ne parviennent pas à se loger, c'est que le patronat ne paye pas le minimum nécessaire. On ne peut pas se loger avec 900 euros de salaire. Même les HLM refusent de louer à d'aussi faibles revenus. Quand il s'agit de se loger à proximité des villes, le SMIC n'est plus un minimum, il est en dessous du minimum. La valeur de la force de travail est censée correspondre à ce que coûte son entretien, la nourriture, le logement, les vêtements. Eh bien, la bourgeoisie ne paye même plus les salaires correspondant à la valeur de cette force de travail. Elle ne se contente plus de la plus-value du fruit du travail. La bourgeoisie vole aussi une partie du salaire qu'elle doit aux travailleurs. Les marchands de sommeil et autres marmoulins sont des parasites, mais ce ne sont pas eux qui dirigent la société. C'est la grande bourgeoisie. Et c'est la lutte contre elle qui sera décisive. Imposer des salaires corrects et garantir le pouvoir d'achat est un combat permanent que les travailleurs doivent mener contre la bourgeoisie. C'est un combat indispensable pour se défendre. Mais l'économie capitaliste est incapable de résoudre définitivement la question du logement en garantissant à tous et à toutes et à tous un logement correct. Elle est incapable de répondre aux besoins vitaux de toute la population. Se nourrir, se vêtir, se loger. Et en tant que communiste, je rajouterai s'éduquer. Ces priorités-là, seules peuvent les mettre en œuvre un pouvoir représentant réellement les intérêts des travailleurs et par là même l'ensemble des classes populaires. Pour ce pouvoir-là, ce serait une évidence qu'il faut satisfaire les besoins élémentaires avant de penser à construire des palaces. Quoi de plus écœurant et de plus révoltant que ce capitalisme triomphant qui déploie des milliards et des trésors d'ingéniosité pour construire des hôtels sous-marins ou des pistes de ski à Dubaï, dans les villes riches et même dans les quartiers riches des villes pauvres. Les architectes rivalisent de prouesse avec leurs structures d'acier et de verre, mais à l'échelle de la planète, les villes qui grandissent aujourd'hui, Bombay, Mexico, Lagos, Nairobi, sont-elles de plus en plus faites de briques brutes, de parpaings, de tôles et de bâches plastiques? Pour que ce ne soit pas cela l'avenir de la majeure partie de l'humanité, il faut se débarrasser de la société capitaliste. Ce n'est qu'après avoir repris en main les rênes de l'économie que l'on pourra réellement organiser, planifier le logement pour tous. Mais à quoi ressemblera l'avenir plus lointain? Est-ce que ces grandes agglomérations continueront de grandir? Y aura-t-il deux mondes séparés, le monde des villes, où la population se concentrera, et celui des campagnes, désertées? Comme le disait Engels, il serait oiseux de l'imaginer. La société communiste réglera ce problème en fonction d'une multitude de choses, en fonction de l'organisation de la production la plus rationnelle, en fonction de l'organisation des transports, de l'écologie et même des goûts de chacun. Lorsque la loi du profit ne sera plus qu'un élément de notre mémoire, un élément du passé barbare de l'humanité, on pourra commencer à se poser ces questions, car à ce moment-là seulement, on pourra le faire sans arrière-pensée, sans hypocrisie, en mettant toutes les ressources disponibles au service de l'intérêt de l'humanité et de la planète.
Débat. Donc je demande aux personnes qui auraient des questions ou des remarques de se signaler en levant la main. Ah, je vois quelqu'un au fond, à ma gauche. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Bon, on va commencer. Donc, il faudrait qu'il y ait un camarade qui aille avec un micro. Non, l'autre travée.
Non, c'est ça. Simplement, évidemment, ça ne va pas vous paraître suffisant, mais est-ce que vous trouvez qu'il y a des aspects suffisants dans les organisations un petit peu comme les syndicats, mais dans les organisations de défense de logement comme la CNL actuellement?
avant que Nathalie Arthe réponde, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Donc si j'ai bien compris la question, c'est est-ce que le combat de la CNL aujourd'hui et des autres organisations de logement est suffisante ou importante? Oui. Bon, effectivement, ce que fait la CNL ou d'autres organisations comme le DAL, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, y compris ville par ville, on se rend compte qu'il y a des mobilisations d'habitants qui s'organisent en association pour s'opposer, par exemple, au scandale des marchands de sommeil. Donc, tous ces combats, eh bien, effectivement, c'est les nôtres, ils sont légitimes, on les soutient et ils ont toute notre solidarité. Et, bon, le problème, c'est qu'effectivement, nous, on pense que ça ne suffit pas. Ce n'est pas des combats qui vont régler le problème. Parce que ce que j'ai voulu un peu expliquer ce soir, c'est que finalement, le problème du logement, c'est un sous-produit de l'exploitation. C'est un sous-produit parmi les plus graves de l'exploitation. Et à partir du moment où on ne combat pas cette exploitation, on ne va pas supprimer, finalement, le problème. On a pu, par exemple, dans les années, fin des années 70-80, être content, satisfait de la disparition des bidonvilles, mais comme on l'a constaté, ben, les bidonvilles réapparaissent. C'est-à-dire que c'est une lutte permanente si cette société d'exploitation n'est pas renversée. Et ce qui se passe, c'est que ces organisations-là, eh bien, elles se concentrent, elles en font leur combat, c'est important, mais nous, on pense que ça serait catastrophique s'il n'y avait pas aussi des militants qui combattent pour le changement de société, pour renverser cet ordre social. Et on se rend compte qu'on est bien seul, finalement, qu'on est de moins en moins nombreux, en tout cas, pour le mener, ce combat-là. Or, il est décisif. À partir du moment où on est convaincu que les solutions, elles existent, que les moyens, on les a, eh bien, ce combat-là, il faut le mener. Donc, ça, nous, on sait qu'on ne pourra pas le demander hein, aux militants du DAL ou aux militants de la CNL. Voilà.